Chapitre 6. Barrytown. Il resta dans les vapes à peu près 8 heures, d'après l'horloge sur le Hitachi de sa mère. Il se réveilla face à son écran poussiéreux, un objet dur appuyant contre sa cuisse, l'Ono Sendai. Il roula sur un côté. Odeur de vieux vomi. Puis, il se retrouva sous la douche, sans trop bien savoir comment il s'y était rendu, tournant les robinets encore tout habillé. Il se griffa le visage, tira dessus. On aurait dit un masque en caoutchouc. Il s'est passé quelque chose. Quelque chose d'énorme, de grave. Il ne savait pas bien. Ses vêtements mouillés s'empilèrent peu à peu sur le sol carrelé de la salle de bain. Puis il sortit de la douche, s'approcha de l'évier, écarta une mèche humide de ses yeux et regarda le visage dans le miroir. Bobby Newmark, pas de problème. Non, Bobby, il y a un problème. Une serviette autour des épaules, dégoulinant, il emprunta l'étroit couloir jusqu'à sa chambre, un minuscule espace triangulaire tout au bout de l'appartement. Sa console d'holoporn s'alluma à son arrivée, et une demi-douzaine de filles souriantes le regardèrent avec une joie non dissimulée. Elles semblaient situées par-delà les murs dans des panoramas brumeux d'espace bleu pâle, leurs dents blanches et leurs jeunes corps fermes, brillant comme des néons. Deux d'entre elles s'avancèrent et commencèrent à se toucher. « Arrêtez !» dit-il. La console de projection s'éteignit aussitôt. Les filles fantasmes disparurent. L'appareil avait autrefois appartenu au grand frère de Ling Warren. Les cheveux et les vêtements des femmes étaient datés et plutôt ridicules. On pouvait leur parler et leur demander de se faire des choses toutes seules ou bien à plusieurs. Bobby se rappelait qu'à 13 ans, il était amoureux de Brandy. Celle avec le pantalon de latex bleu. Désormais, il aimait surtout les projections pour la sensation illusoire d'espace qu'elles offraient dans la chambre de fortune. « Il s'est passé quelque chose, putain » dit-il en enfilant un jean noir et une chemise presque propre. Il secoua la tête. « Quoi, putain, quoi ? Une surcharge électrique ? Un problème à l'autorité nucléaire ? Peut-être que la base dans laquelle il tentait de s'introduire avait subi une panne bizarre ou une attaque par un tiers. Mais il avait l'impression d'avoir rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui... Il avait tendu la main droite sans y réfléchir, les doigts écartés d'un air suppliant. « Merde !» dit-il. Les doigts se refermèrent pour former un point, puis cela lui revint. D'abord, la sensation d'une chose énorme, ce très gros truc qui le poursuivait à travers le cyberespace, puis celle de la fille. Brune, mince, accroupie quelque part dans d'étranges ténèbres où brillaient les étoiles et soufflait le vent. Mais elle se déroba aussitôt à son esprit. Affamé, il mit ses sandales et se dirigea vers la cuisine en s'essuyant la tête avec une serviette humide. En passant dans le salon, il remarqua le bouton marche de l'Ono Sendai qui le narguait depuis le tapis. Oh merde ! Il resta là à se mordre les lèvres. Elle était toujours branchée. Pouvait-elle encore être reliée à la base qu'il essayait de pénétrer ? Savait-il qu'il n'était pas mort ? Il l'ignorait. Ce dont il était sûr, en revanche, c'est qu'ils avaient son numéro. Il ne s'était pas embêté avec des protections ou des coupes-circuits pour les empêcher de remonter jusqu'à lui. Ils avaient son adresse. Sa faim oubliée, il retourna dans la salle de bain et fouilla dans les vêtements mouillés jusqu'à ce qu'il trouve sa puce de crédit. Il avait 210 nouveaux yens cachés dans la poignée en plastique creuse d'un tournevis multifonction, une fois l'outil et la puce dans son jean. Il enfila sa plus vieille et plus lourde paire de bottes, puis tira des habits sales de sous le lit. Il trouva un blouson noir en coton avec au moins une dizaine de poches, dont une immense dans le creux des reins, une sorte de sac à dos intégré. Il gardait un couteau papillon japonais à la poignée orange sous son coussin. Il le rangea dans l'étroite cavité sur la manche gauche de sa veste, près du revers. Les filles fantasmes s'allumèrent à son départ. « Bobby, Bobby, reviens jouer !» Dans son salon, il débrancha le jack de l'Ono Sendai de la façade du Hitachi, puis enroula le cordon de fibre optique qu'il rangea dans une poche. Il fit de même avec les électrodes, puis glissa l'Ono Sendai dans la cavité arrière du blouson. Les rideaux étaient toujours tirés. L'euphorie s'empara de lui. Il partait. Il devait partir. Il avait déjà oublié la pathétique tendresse que son flirt avec la mort avait créée en lui. Il écarta les rideaux avec soin. Une minuscule ouverture, et regarda dehors. C'était la fin de l'après-midi. Dans quelques heures, les premières lumières s'allumeraient sur les ensembles sombres de la cité. Le grand parvis étalait comme une mer de béton. La cité s'élevait au-delà de la rive opposée, immense structure rectiligne adoucie par une couche aléatoire de balcons transformés en serres, d'aquariums à poissons-chats, de systèmes de chauffage solaire et des omniprésentes antennes de fil de fer. Deux par jour devaient être là-haut, en train de dormir, dans un monde que Bobby n'avait jamais vu, un monde d'archéologie à revenus de base. Deux par jour descendaient ici pour faire des affaires, en général avec les branleurs de baryton. Puis ils retournaient là-bas. Bobby s'était toujours dit que ça devait être bien là-haut, qu'il devait se passer plein de choses sur les balcons la nuit, autour du flamboiement rouge du charbon de bois, avec ses enfants en sous-vêtements qui fourmillaient comme des singes, si petits qu'il les discernait à peine. De temps en temps, le vent tournait et l'odeur de cuisine parvenait jusqu'au grand parvis, et l'on voyait parfois un ultra-léger planer depuis un pays caché de toits très hauts, là-bas. Et toujours le brouhaha d'un million de haut-parleurs, vagues de musique qui déferlaient jusqu'à lui ou refluaient selon la brise. De par jour ne parlait jamais de sa vie, de l'endroit où il habitait. Il parlait affaires ou pour faire la conversation de femmes. Ce qu'il en disait avait donné encore plus envie à Bobby de quitter Baryton, et il savait que le business était son seul moyen d'y parvenir. Mais il avait désormais besoin d'une fourgue d'une autre manière, car il se retrouvait complètement dépassé. Peut-être que deux par jour pourraient lui expliquer ce qu'il se passait. Cette base n'était pas censée être protégée par des contre-mesures mortelles. Deux par jour l'avait choisi pour lui, et il lui avait loué le logiciel permettant d'y pénétrer. Et deux par jour était prêt à revendre tout ce qu'il en aurait tiré. Il était donc au courant. Il savait quelque chose, en tout cas. « Ce n'est même pas ton numéro, mec », dit-il à la cité en lâchant les rideaux qui se refermèrent. Devait-il laisser quelque chose à sa mère? Un mot? « Mon cul ?» lança-t-il à la pièce derrière lui. « Je me tire. » Puis il sortit, traversa le palier et se dirigea vers les escaliers. « Et je ne reviendrai pas !» ajouta-t-il en ouvrant la porte extérieure d'un coup de pied. Le grand parvis semblait tranquille, si l'on exceptait ce glaneur torse nu qui engueulait Dieu. Bobby passa au large, l'homme hurlait, sautait et frappait, façon karaté dans le vide. Il avait du sang séché sur les pieds et quelques vestiges d'une coupe de cheveux de lob. Le grand parvis était un terrain neutre, en théorie du moins. Et les lobes étaient plus ou moins affiliés avec les gothiques. Bobby avait des liens solides avec les gothiques, mais conservait son statut d'indépendant. Baryton était un endroit risqué pour un franc-tireur. En tout cas, se dit-il, tandis que le charabia énervé du glaneur s'évanouissait derrière lui, les gangs offraient une certaine structure. Quand les décontractes taillaient un gothique en morceaux, c'était logique. Peut-être que les raisons qui sous-entendaient ce geste étaient folles, mais il y avait des règles. Alors que les indépendants se faisaient parfois buter par des glaneurs défoncés au cérébrotron, par des dingues de prédateurs errants, venus d'aussi loin que New York, comme ce collectionneur de pénis l'année dernière, qui conservait les morceaux dans un sac plastique dans sa poche. Bobby essayait de se tirer de cette zone depuis sa naissance, où il en avait l'impression en tout cas. Désormais, l'interface de cyberespace cognait dans la poche contre son dos au rythme de ses pas, comme si elle aussi lui intimait de partir. « Allez, deux par jour !» dit-il à l'écrasante cité. « J'espère que tu t'es bougé et que tu seras chez Léon quand j'y arriverai !» Deux par jour n'était pas chez Léon. Il n'y avait personne sauf Léon, qui sondait les entrailles d'un convertisseur d'écran mural avec un trombone tordu. « Pourquoi tu ne défonces pas cette saloperie à grands coups de marteau pour le réparer ?» demanda Bobby. « Ça reviendra au même. » Léon leva les yeux du convertisseur. Il devait être dans la quarantaine, mais c'était difficile à dire. Il ne semblait pas appartenir à une ethnie particulière et, sous certains éclairages, paraissait plutôt être d'une race dont il était le seul représentant. Visage aux os hypertrophiés, et crinière de cheveux noirs et mat. Bobby fréquentait assidûment son club pirate souterrain depuis 2 ans. Léon lança un regard vide à Bobby avec ses yeux troublants aux pupilles d'un gris nacré rehaussé d'une pointe de vert olive translucide. Il lui rappelait des huîtres et du vernis à ongles, deux choses qu'il n'associait pas naturellement à des yeux. Leur couleur évoquait la matière dont on recouvre les tabourets de bar. Enfin, tu ne peux pas réparer des trucs rien qu'en les triturant, ajouta Bobby mal à l'aise. Léon secoua lentement la tête et reprit son exploration. On payait pour entrer ici, car Léon piratait le Kino et la SimSteam depuis le câble et diffusait un tas de trucs que les baritoniens ne pouvaient se permettre d'acheter. On dealait dans l'arrière-boutique et on pouvait faire des dons pour boire des verres, essentiellement du whisky de l'Ohio coupé avec une boisson synthétique orange dont Léon possédait des quantités industrielles. « Dis donc, Léon, » poursuivit Bobby, « t'aurais pas vu deux par jour dans le coin récemment ?» Les horribles yeux se levèrent de nouveau et examinèrent Bobby trop longtemps. « Non. Hier soir, peut-être ?» Non. Avant-hier soir? Non. Bon, d'accord. Merci. Inutile d'insister avec Léon, pour plein de raisons. Bobby regarda la grande salle sombre, les appareils de SimSteam et les écrans Kino éteints. L'établissement s'étendait sur une série de pièces quasi identiques au sous-sol d'un ensemble semi-résidentiel, composé de studios et de quelques commerces. Bonne insonorisation. On n'entendait presque jamais la musique depuis l'extérieur. Il était souvent sorti de chez Léon en pleine nuit, la tête pleine de bruit et de pilules, pour se retrouver dans une sorte de bulle de silence, les oreilles qui sifflaient pendant tout le trajet sur le grand parvis jusque chez lui. Il lui restait à peu près une heure avant que les premiers gothiques ne débarquent. Les dealers, surtout des noirs de la cité, des blancs du centre-ville ou d'une banlieue pavillonnaire quelconque, ne se pointeraient pas avant qu'une partie de leur clientèle gothique ne soit arrivée. Demeurer assis là à attendre faisait mauvais effet pour un dealer, car cela signifiait qu'il ne travaillait pas, et aucun trafiquant qui assurait ne traînerait ici sans une bonne raison. Il n'y avait que des branleurs chez Léon, des hackers du dimanche avec des interfaces bon marché qui mataient des kinos de brise-glace japonais. Mais deux par jour n'était pas comme ça, se dit-il, en montant les marches de béton. Deux par jour avait de l'avenir. Il quitterait la cité, baritone, et chez Léon, direction la ville, Paris peut-être, ou Chiba. L'Ono Sendai rebondissait contre le dos de Bobby. Il se rappela que la cassette du brise-glace de deux par jour se trouvait toujours à l'intérieur. Il n'avait aucune envie de devoir s'en justifier auprès de quiconque. Il passa devant un kiosque à journaux. Un fax jaune de l'édition new-yorkaise du Asahi Shimbun tournait derrière une fenêtre de plastique sur la façade en miroir. La chute d'un gouvernement en Afrique, des trucs russes sur Mars. C'était l'heure de la journée où tout devenait limpide, où les moindres détails apparaissaient à l'autre bout de la rue. Les bourgeons verts qui sortaient des branches noires des arbres dans leurs orifices au milieu du béton, et l'éclat d'acier de la botte d'une fille à 200 mètres, comme si l'on regardait à travers une sorte d'eau qui clarifiait tout, même s'il faisait presque nuit. Il se retourna et observa la cité. Des étages entiers étaient éteints à jamais, abandonnés, ou les fenêtres obturées. Que faisait-on là-dedans? Il devrait le demander à deux par jour, un de ces quatre. Il regarda l'heure sur l'horloge coke du kiosque. Sa mère devait être rentrée de Boston désormais forcément, sans quoi elle manquerait une de ses séries préférées. Un nouveau trou dans la tête, elle était folle de toute façon. Il ne s'agissait pas d'un problème dû à la prise installée avant la naissance de son fils, mais elle se plaignait depuis des années de parasites, de défauts de résolution et de contamination sensorielle. Et elle avait fini par économiser assez de crédit pour se rendre à Boston en vue d'un remplacement au rabais, dans le genre d'endroit où l'on n'avait même pas besoin d'un rendez-vous pour une opération. On se pointait et il vous prenait direct. Il savait comment elle était, ça oui. À peine la porte passée avec une bouteille sous le bras, sans même retirer son manteau, elle fonçait se brancher au Hitachi et se vidait le cerveau avec ses séries pendant 6 heures d'affilée. Ses yeux restaient dans le vague et parfois, s'il s'agissait d'un très bon épisode, elle bavait un peu. Toutes les 20 minutes, elle parvenait à se rappeler de boire une petite gorgée de sa bouteille. Elle avait toujours été comme ça, pour autant qu'il s'en souvienne, et n'avait cessé de s'enfoncer un peu plus dans sa demi-douzaine de merde synthétique, fantasme SimSteam à suivre dont Bobby avait entendu parler toute son existence. Il avait encore la sensation désagréable que certains des personnages dont elle lui racontait la vie étaient des parents à lui, des oncles et des tantes charmants et fortunés qui débarqueraient peut-être un jour, si seulement il ne se comportait pas autant comme une merde. C'était peut-être vrai en un sens. Elle était restée branchée à ses conneries pendant toute sa grossesse. Elle le lui avait dit, et donc lui, fœtus Newmark, recroquevillé là-dedans, avait subi un millier d'heures de « People of Impotence » et « Atlanta ». Mais il n'aimait pas penser à l'époque où il était pelotonné dans le ventre de Marsha Newmark. Cela le faisait transpirer, le rendait un peu malade. Marsha, maman, ce n'était qu'au cours de l'année écoulée que Bobby avait suffisamment compris le monde tel qu'il l'envisageait désormais pour se demander comment elle parvenait à s'en sortir, en vivant ainsi à la marge avec sa bouteille et les fantômes de son implant pour lui tenir compagnie. Parfois, lorsqu'elle était d'humeur et qu'elle avait assez bu, elle tentait encore de lui raconter des histoires à propos de son père. Il savait depuis l'âge de 4 ans que ses récits étaient bidons, car les détails changeaient à chaque fois. Mais pendant des années, il les avait écoutés avec un certain plaisir. Il trouva un quai de chargement quelques centaines de mètres à l'ouest de chez Léon, caché de la rue par une benne récemment peinte en bleu, la nouvelle couleur luisant sur l'acier troué et bosselé. Un unique tube halogène pendait au-dessus du quai. Il s'assit sur un rebord de béton confortable en s'efforçant de ne pas cogner l'Ono Sendai. Parfois, il suffisait d'attendre. C'était une des leçons que lui avait apprises deux par jour. Toutes sortes de déchets industriels dépassaient de la benne. Barry Town avait son lot de fabricants aux limites de la légalité, participant à l'économie souterraine que les journalistes visio aimaient évoquer. Mais Bobby ne prêtait guère attention aux journalistes visio. Du business, il ne s'agissait que de business. Des papillons de nuit orbitaient autour du tube halogène. Bobby observa d'un air absent trois gamins, dont le plus âgé ne devait pas avoir plus de 10 ans, escaladaient la paroi bleue de la benne avec une longueur de corde sale en nylon blanc et un crochet improvisé, sans doute piqué à un cintre. Lorsque le dernier eut passé le sommet pour entrer dans le fouillis de rebut plastique, ils remontèrent la corde. Les déchets se mirent à craquer et à bruire. « Moi aussi, » songea Bobby. « Je faisais ça et je remplissais ma chambre des trucs bizarres que je trouvais. » Une fois, la sœur de Ling Warren était tombée sur un gros bout de bras humain, enveloppé dans du plastique vert et affublé de mains en caoutchouc. Marsha, maman, souffrait parfois d'accès religieux. Pendant 2 heures, elle entrait dans la chambre de Bobby, jetait toutes ses meilleures trouvailles et collait au-dessus de son lit un affreux hologramme autocollant. Jésus ou Hobart, parfois la Vierge Marie, peu importait quand elle était dans cet état. Cela rendait fou Bobby. Jusqu'à ce qu'un jour, il soit assez grand pour débarquer dans le salon, un marteau à la main, et la menacer de s'en prendre au Hitachi. « Si jamais tu retouches à mes affaires, je tuerai tes amis, maman, sans exception !» Elle n'avait jamais recommencé. Mais les hologrammes autocollants avaient tout de même eu un effet sur Bobby, parce qu'il lui semblait qu'il avait envisagé l'idée de religion avant de la rejeter. Il comprenait que certains en aient besoin, et qu'il en était ainsi depuis la nuit des temps, mais ce n'était pas son cas. Un des gamins dans la benne sortit une tête et examina les environs avant de disparaître de nouveau. Un bruit sourd retentit. Des mains blanches enfantines firent passer une petite boîte bosselée en alliage par-dessus le rebord pour la descendre sur la corde de nylon. « Belle prise !» se dit Bobby. On pouvait en tirer quelque chose chez un ferrailleur. Ils abaissèrent l'objet jusqu'au trottoir, à peu près à 1 mètre des semelles des bottes de Bobby. Lorsqu'il toucha le sol, le bidon se retourna et il vit le symbole à 6 cornes qui indiquait un danger biologique. « Hé, putain !» lança-t-il en relevant les pieds par réflexe. Un des gamins descendit et redressa la boîte. Les deux autres le suivirent. Il les découvrit plus jeunes qu'il l'avait cru.
« Hé !» dit Bobby. « Vous savez que c'est peut-être hyper dangereux, que ça peut donner le cancer ou un truc comme ça !»«
Va lécher le cul d'un chien jusqu'à ce qu'il saigne !»
lui conseilla le premier garçon qui avait atteint le sol tandis que les autres récupéraient leurs crochets, enroulaient leurs lignes et tiraient la boîte derrière le coin de la benne, hors de vue.